With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Magnum, how are you savage? Blood stains the Bonjour et bienvenue dans Crac Crac, le rendez-vous des coquins curieux et des gourmandes croquantes. Bref, l'émission qui plonge la tête la première dans les semences de notre société. Et souvent, j'y bois la tasse. Crac Crac, c'est une émission télé, un podcast, des spectacles, mais c'est aussi ce soir à la Nouvelle Ève, un club. C'est Crac Crac Club et vous êtes sur la liste. Dans Crac Crac, j'ai abordé beaucoup de sujets, j'ai donné de ma personne, d'ailleurs sous ses ongles, il y a l'ADN de la moitié de la France. Mais il y a un sujet qu'on n'a jamais encore traité, et pourtant c'est la base, l'amour, les sentiments. Ah, les sentiments. Un truc d'ailleurs qu'on appelle depuis une dizaine d'années les sentiments. Et il y a un jour en particulier qui cristallise tout ce mix de romance, c'est la Saint-Valentin. Alors je vois déjà à l'horizon surgir les esprits chagrins. Oui, devons-nous encore subir le diktat des grands groupes financiers? Est-ce que l'amour c'est vraiment que le 14 février? Tout comme le Coca a inventé le Père Noël, les marques de café ont inventé la fête des grands-mères, et les femmes ont inventé le clitoris? Eh bien je répondrai à toutes ces personnes, I know, love is complicated, but it isn't, don't love. Chez Crac Crac, on essaye d'être au maximum dans l'inclusivité et de faire une émission entièrement consacrée à l'amour, potentiellement aussi adressée à des célibataires. On a donc pensé également à vous, qui êtes peut-être seul et déprimé en ce soir de Saint-Valentin. Bien, grâce à Crac Crac et Canal+, vous n'êtes plus seul. MyCanal a développé une technologie incroyable pour cette émission. Vous allez tendre votre main vers votre écran et moi, je m'approche et je vous donne la main. Et ce soir, ce sera moi, votre date. Voilà, vous avez même... ça va un peu trop vite entre nous, puis je sais même pas si t'as fait ton test PC. Et oui, habile transition. Déjà que l'amour c'est compliqué, alors avec une pandémie mondiale par-dessus, c'est plus Mission Impossible, c'est Mission Impossible 2. Faut l'avouer, avec le Covid, on vit de véritables couvre-feux de l'amour. Oh, Brad, ce serait bien si tu pouvais tomber amoureux de moi assez vite parce qu'il est déjà 17h12. Attends Brad, je suis amnésique. Depuis 4 épisodes, déjà je ne sais plus, l'amour, ça dure 3 ans ou 3 confinements? Oh. Jeu d'acteur, mon pote. Et à propos d'amour, elle est journaliste, autrice, elle est la fleur qui illumine ce tas de fumier que vous admirez actuellement. Une émission d'une heure sur l'amour, moi j'y connais rien, mais elle, elle a son BEP Love, option bisous, merci d'applaudir ma bras droite, René Grosard.
Bonsoir. Et ouais, mon bon poulpe, on est là pour fêter l'amour. Mais qu'est-ce que ça devient l'amour quand on vit une période aussi chelou que la nôtre? Pour parler de tout ça, je vous demande d'accueillir François Cros, qui est le monsieur sexe de l'Hip-Hop. Et Victoire Tuaillon, que vous connaissez peut-être pour son émission Les couilles sur la table.
Bienvenue les amis. François, déjà félicitations parce que tu es monsieur sexe de l'IFOP, l'Institut de sondage. C'est quand même très rare comme métier, je crois que vous n'êtes pas beaucoup en France.
Oh, je suis le seul, j'ai le monopole du sexe.
Oh là là, là. T'es déjà venu dans Crac Crac à la sortie du premier confinement, on t'avait invité. On ne pensait pas te réinviter parce qu'on ne pensait pas avoir un second confinement. Donc peut-être, un moment, je me suis dit, peut-être que c'est même à cause de toi qu'il y a des confinements, etc. Tu vois. Et donc, tu as fait des très grandes études autour du confinement au niveau des statistiques. Mais donc, du coup, on s'est dit que c'était quand même intéressant de pouvoir voir ce qui s'était passé après le second confinement.
Et justement, ce qu'on voulait te demander, c'est est-ce que tu as remarqué des différences notables entre le premier confinement et le deuxième?
Oui, on a surtout un regain d'activité sexuelle. Le premier confinement, ça avait été une grosse source de stress, de tension conjugale aussi. Il y avait les enfants, il y avait la perte des proches, son emploi, etc. Et on a vu qu'il y avait aussi une hausse, une explosion des disputes et des violences conjugales, qui sont aussi un indicateur des problèmes de couple. Et le second confinement, lui, il s'est quand même traduit par un regain d'activité sexuelle chez les personnes en couple, mais surtout chez les célibataires, on voit qu'il y en a beaucoup, beaucoup, plus de 2 sur 3, qui ont transgressé les règles de confinement pour retrouver leur partenaire ou ou leur plan cul régulier ou occasionnel. Et finalement, de même qu'on a retrouvé un regain d'activité économique, on a aussi un regain d'activité sexuelle.
Bah, il y avait les attestations qui étaient un peu plus cool quoi, sur le dos.
Il y avait une case plan cul à la fin
ou... Ouais, je l'avais. Hein. alors, encore une fois, on est là pour dire des chiffres. François, ouais. 47%. Ça sera mon dernier chiffre. 47% des personnes que tu as sondées ont déploré un manque de tendresse pendant ce confinement.
Ouais, bah, en fait, les gens croient toujours que bon, bah, c'est le sexe qui guide les relations de couple. Et au fait, on voit que là, la demande était plus une demande de réconfort d'ordre affectif que sexuel. Et on a senti, aussi bien chez les personnes en couple que célibataires, et notamment chez les personnes qui sont vraiment isolées, qui sont en télétravail et qui ont peu de relations sociales, qu'il y avait un besoin de tendresse, d'affectif, d'affection, de contact physique ou charnel, mais pas forcément lié à un besoin de sexe pour le sexe.
Ça te surprend, Victor, ça, ou qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Eh bien, non, ça ne me surprend pas du tout, parce que peut-être que ce dont on peut se rendre compte pendant ces périodes de confinement et cette période de crise-là, c'est qu'on a vraiment tous et toutes besoin les unes des autres. Et on a besoin de soins, et on a besoin de tendresse, et on a besoin d'amour, en fait. Et peut-être que ça nous permet de réaliser ça, à quel point on a besoin les unes des autres et les uns des autres.
Oh. Allez, trop. Bah, c'est à la fois beau et triste.
Moi, je ne pense pas que ce soit triste.
Je suis perdu, mais...
Mais en tout cas, on ne peut pas faire comme si on pouvait s'en sortir tout seul, ouais. Parce que ce n'est pas vrai, personne ne s'en sort jamais tout seul.
Je crois que c'est un peu ça qu'on a appris pendant le second confinement, je crois. Le premier, je pense que tout le monde flippait. Le second, je pense qu'il y a un vrai truc de manque humain. Comment on se rencontre, justement, dans le monde d'après ? Enfin, le monde d'après de maintenant, mais qui était le monde d'avant. Enfin, tu vois.
D'avant, d'après.
Le monde de maintenant, mais qui est finalement le monde d'après, quelque part. À l'instant, on est déjà dans la seconde d'après de celle d'avant, tu vois.
Oui, c'est quoi ta question exactement ? Bah, écoute, tout simplement, c'est pas surprenant, hein, il y a eu plein de chiffres qui sont sortis sur le sujet. On a eu une accélération de la digitalisation de la rencontre, hein, qui était déjà un phénomène qui a augmenté depuis des années et qui s'est accru de manière manifeste durant les deux, trois confinements. Est-ce qu'on est dans un troisième confinement ? Il faut se poser la question. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens comment ils ont trouvé leur partenaire depuis la mise en place du confinement, c'est l'Internet, que ce soit les sites, les applications de rencontres ou les autres formes de rencontres en ligne, qui sont les réseaux sociaux, etc., qui sont devenus le premier mode de rencontre. Et ça, c'est quelque chose vraiment de novateur avant.
Et qui est lié au confinement, vraiment.
Bah, qui est lié tout simplement à la fermeture des lieux de rencontres, de sociabilité nocturne comme les bars, les boîtes de nuit, et puis même aussi avec le télétravail, le fait qu'on se rencontre aussi moins sur l'espace professionnel, et aussi pour les étudiants, la fermeture des universités. Donc tout ça, ça renforce la seule solution pour faire des rencontres, c'est les applications de rencontres. Enfin, c'est pas la seule, hein, mais en tout cas, c'est désormais le premier mode de rencontre en France.
Alors, ça tombe bien que tu parles de télétravail, puisqu'il y a un truc qu'on a remarqué dans ton étude et qui nous a beaucoup amusé. On a remarqué que les gens étaient des coquinous et que pendant le télétravail, il y a des gens qui faisaient du sexe entre eux, dans le télétravail.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux commenter ce phénomène qui nous intéresse beaucoup ?
Alors, on s'est demandé ce que faisaient aussi les couples pendant les heures de travail et on a vu que les adeptes du 5 à 7 étaient assez nombreux. On a...
Des 2 à 3, des 10 à 11.
Oui, on ne sait pas à quelle heure c'est, mais en tout cas, on avait à peu près un télétravailleur sur 3 qui avait déjà eu un rapport sexuel chez lui durant les heures de travail. Et ça monte à 51% chez les jeunes de moins de 25 ans, qui sont généralement aussi les plus actifs sexuellement.
Tu as beaucoup télétravaillé, toi, Victoire ?
Oui, et j'ai la chance de pouvoir gérer mon temps de travail comme je le souhaite.
Et niveau rupture, est-ce que c'est un carnage, alors, le Covid ?
Quand on avait fait la sortie du premier confinement, on avait à peu près, je crois, 15% des femmes en couple qui envisageaient sérieusement de rompre. Finalement, toutes n'ont pas rompu, mais il y a eu du carnage, notamment chez les jeunes couples. Alors voilà, les vieux couples, ils sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, donc ça aurait été moins une épreuve, hein, ils se connaissaient. Mais pour les jeunes couples, le plan Tinder avec lequel on s'est confiné très vite, finalement, ça a souvent explosé. Et aujourd'hui, on a à peu près 2 Français sur 3 qui sont en couple, mais ils ne sont pas tous en couple avec la même personne que lors du premier confinement. On en a environ 5-6% qui ont soit changé de partenaire, soit qui ont préféré être seuls durant le second confinement, notamment les jeunes de manière assez nette.
Cette émission, c'est Crac-Crac, faites l'amour. Tu as déjà eu un coup de foudre, François ?
Comme tout le monde, je pense, j'espère.
Ouais. Victoire ?
Oui, mais Oui, mais pour moi, c'est vraiment une construction culturelle, c'est un récit qu'on fait, et c'est intéressant de le déconstruire aussi, ce récit-là. Voilà, de se demander qu'est-ce qu'on met derrière ça, et pourquoi, par exemple, le fait d'avoir un coup de foudre avec quelqu'un, on va s'imaginer des tas de choses sur ce que ça veut dire sur le futur de la relation, que ça veut dire que t'es prédestiné, ouais, que c'est à moitié, etc., et je trouve ça dangereux, en fait.
Oui, tu te projettes à fond sur l'autre.
Oui. Ouais. Et que ça, c'est peut-être pas une bonne idée.
On va parler de déconstruction après. Je te laisse prendre tes pelles, tous tes outils de BTP. L'amour est partout, et pas qu'ici, dans cette magnifique salle de la Nouvelle-Ève. Prenons le GR20 de l'amour et partons vers la province. René, prends ton bâton de marche et tes chaussures de rando et allons tout droit vers les Calanques de Marseille pour nous parler d'amour. Le voilà, avec des cigales dans son slip, c'est l'humoriste Redouane Bougaraba.
Bonsoir, je suis super content d'être là. Je vous explique, il y a Poulpe, il m'a appelé sur mon téléphone, il me dit « Redouane, t'inquiète pas, j'ai une émission, crac-crac, je connaissais pas. » Il me dit « Tu viens jouer ?» Moi, j'étais pas très chaud, il me dit « Écoute, il y a déjà un poil sur scène, tu pourras avoir une standing ovation assis, mais avec tub. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème, je viens, il y a un piano, ils sont, on dirait The Voice, de dos, chaque bonne vanne, ils vont se retourner. » Un public, moi je suis content de venir, je vous dis la vérité, parce que ça fait 6-7 mois qu'on joue plus, et de jouer ici à la Nouvelle-Ève devant 16 personnes masquées. Ah ouais, je suis, au niveau de ma carrière, je suis là, je sens que je suis au top. Là, j'ai Poulpe, parle-moi de crac-crac, il m'a dit, écoute, c'est comme vendredi, tout est permis, à part que le décor penché, il va y avoir des tubs. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on va se lancer. Il me dit, parle amour, sors une expérience de l'amour, ça va être diffusé juste avant la Saint-Valentin. J'ai dit, ok, tu veux combien de minutes, Poulpe? C'est toi qui choisis, frérot. Parce
c'est
que
bien.
Moi, j'ai...
C'est bien, on est
ça
bien.
Fait tellement longtemps que je n'ai pas joué devant un public, je peux te faire une heure, là. Je me chauffe, je te jure. Encore une vanne sur François Cross,
non.
Surnommé le sexpert portier Clignancourt, c'est ça ou pas?
C'est ça.
J'ai parlé un petit peu avec lui en loge, juste avant. Il me disait que sur les moyennes de tub, en fait, c'était les gens qui déclaraient. C'est-à-dire que les gens, on ne mesure pas la tub des gens. C'est ça que j'ai compris? Donc le mec, tu dis combien mesure ta tub, il arrive 48 centimètres. Non. Donc c'est faussé. Je tenais à dire que tout ce qu'il a raconté depuis le début, c'est de la merde. Non, mais je suis là pour établir la vérité.
Merci. Redouane Bougaraba, merci. Merci Redouane.
C'est le moment du répondeur. Le public peut y laisser des messages olé olé. Allez tout de suite, le répondeur.
Bonjour et bienvenue dans le répondeur de Crac Crac. Laissez votre message après le...
En fait, genre, je rentrais de soirée avec ma copine et on était totalement arrachés et on commence à faire l'amour dans l'ascenseur et tout, machin, nanana. Sauf qu'on capte pas, c'est que quelqu'un d'autre appelle l'ascenseur. Du coup, genre, on se retrouve au rez-de-chaussée, genre, tous les deux, nus, face à ce type, genre, et c'était archi long. Les portes, elles ont dû mettre au moins 10 secondes à se refermer et on était en mode freeze, genre, tous les deux, genre, à bloquer comme ça. Et le truc trop chiant, c'est qu'en plus, genre, on se souvient pas de la tête du gars. Donc, dès qu'on croise un voisin, on se dit, genre, potentiellement, c'est lui, tu vois. Sauf qu'on le sait pas. Mais lui, il le sait que c'est nous. Genre, enfin, c'est juste horrible, quoi. Trop chiant.
Pour la Saint-Valentin, mon copain s'est pris pour un Roméo des temps modernes. J'habitais en centre-ville. Ma chambre se situait au premier étage de la maison. Et il a utilisé son camion de fonction où il y avait une nacelle pour se hisser jusqu'à ma fenêtre pour me donner une belle rose rouge.
Après un concert des Rois de la Suède, on avait rencontré Monsieur Poulpe avec mon chéri et il nous a gentiment dit que si un jour on avait des enfants, eh ben qu'ils seraient trop beaux. Eh ben en fait, chose faite, parce qu'on a un enfant, il a 4 ans et demi et c'est le plus magnifique du monde. Merci Monsieur Poulpe.
C'était le répondeur, merci aux personnes qui ont participé. Il y en a en tout cas qui la fête bien la Saint-Valentin et qui s'en souvient encore. Il a la gentillesse, le courage et sans doute un peu de la folie de venir nous la raconter dans les confidences de Crac Crac Club. On écoute tout de suite Jacques.
Bonjour Poulpe. Quand j'étais plus jeune, ma mère et moi, on avait l'habitude de s'affronter au bras de fer. J'ai eu une éducation un petit peu particulière. Ma mère, il faut savoir qu'elle est comédienne danseuse, donc elle est plutôt grave musclée. Elle m'avait promis que si je la battais, elle m'offrirait le resto de mon choix. Donc je m'entraînais jour et nuit, j'avoue que je poussais un peu la fonte pour réussir à la battre. Et vers mes 14 ans, je me sens chaud, je me sens bien en forme, et je vois surtout qu'elle est un peu fatiguée. Je la défie, elle accepte le défi. Évidemment, je gagne. Elle m'emmène, chose promise, chose due, au resto asiatique, puisque j'ai choisi cet endroit. On rentre dans le resto et quand on s'assoit face à face, mère et fils, on se rend compte autour de nous qu'il n'y a que des tables de couple à deux assiettes, vous voyez. On remarque même un mec un peu seul dans le fond de la salle qui pleure dans son verre de vin avec son assiette seule en face de lui. Ok, bon, étonnant. La serveuse vient nous prendre nos cartes. Elle revient avec nos plats. Elle pose une bougie entre nous deux. Ok. Elle allume la bougie et là, elle nous regarde avec un amour franc et nous fait... Joyeux Saint-Valentin, messieurs, dames. Avec ma mère, on a eu un petit instant de gênance. Je vous avoue que les nems avaient un petit goût de dip. En plus, ma mère et moi, on avait complètement oublié nos conjoints respectifs qui nous ont un petit peu voulu pour ça. Et à ce moment-là, on pense que Freud se fout bien de notre gueule dans sa tombe.
Merci, Jacques.
Merci Jacques pour cette histoire mêlant amour maternel et biscotto. D'ailleurs, moi j'ai un fils de 5 ans et je me disais, ben, peut-être du coup maintenant je vais faire des bras de fer avec lui. Comme ça, je gagnerai tout le temps vu qu'il a 5 ans. Et aussi parce que c'est très cool de calmer les mecs. Non, Victoire ?
Oui, on peut imaginer d'autres modes de relation que l'affrontement.
Ah oui, ben, c'est pas con. Ouais, c'est
de l'amour. Victoire, justement, je le rappelle, t'es créatrice du podcast et livre Les couilles sur la table, monument de la déconstruction de la masculinité. C'est tellement un monument de la déconstruction que finalement, il n'y a même pas de monument puisque ça a été déconstruit.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, bravo Victoire. Aujourd'hui, tu t'attaques, après les couilles, tu t'attaques au cœur.
Oui.
Au cœur sur la table. C'est quoi l'amour pour toi ? Vaste question.
En fait, l'amour, on a souvent tendance à le voir comme un sentiment purement individuel entre deux personnes. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment c'est une construction sociale et culturelle. Et qu'est-ce qu'on appelle amour et qu'est-ce qu'on n'appelle pas amour.
Oui.
Je pense qu'on est en plein dans une époque qui est en train de redéfinir ce qu'est l'amour, ce que sont les pratiques amoureuses et ce qu'on appelle l'amour. Et je trouve que là, c'est ce que nous montrent aussi les mouvements féministes, c'est qu'on grandit dans un monde où on fait beaucoup de confusion entre l'amour et la violence. Ou l'amour et la souffrance. Donc, je peux déjà commencer par te dire ce que ça n'est pas. On vit encore dans une culture où il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut tuer par amour. Et ça, c'est ce que les mouvements féministes commencent à déconstruire aussi, à dire, en fait, ça n'a rien à voir.
Comme des drames conjugaux.
Oui, c'est ça, on appelle ça des drames de la passion, ouais, du ouais. Crime passionnel et tout. Non, c'est un meurtre, en fait. Et je pense, personnellement, que... Il y a plein de choses qu'on appelle amour qui n'en sont pas du tout, donc le contrôle, l'humiliation, voire le meurtre, etc. Mais qu'il y a aussi plein de choses qu'on n'appelle pas amour alors que ça a tout à voir avec l'amour.
Genre ?
L'amitié.
L'amitié, ouais.
L'amitié a tout à voir avec...
Moi, je réponds aux questions de Victoria.
Mais si. C'est moi. Mais si, parce qu'en fait, dans l'amitié, il peut y avoir énormément d'amour dans l'amitié. Et je pense que pour réinventer nos pratiques amoureuses, il faut aussi regarder toutes sortes de sources d'amour qui sont... mais aussi l'amour maternel, les relations qu'on a avec sa famille, pourquoi pas les relations qu'on entretient avec les animaux. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent beaucoup d'affection, de tendresse par ce biais-là. Et voilà, donc en fait, ce qu'il faut renommer... ce qu'on appelle amour et apprendre à reconnaître l'amour là où il est.
C'est plus les sentiments et moins les mots, c'est ça ?
Oui, je pense que, ouais, en fait, il faut réfléchir aux pratiques.
Parce que là, t'as déjà fait beaucoup d'interviews pour le cœur sur la table et tu commences à peine à comprendre ce que ça veut dire vraiment l'amour, machin. C'est à force de...
Oui, c'est vraiment une enquête. C'est vraiment une quête où, en fait, je me pose une question qui est toute simple. C'est, en fait, on sait qu'il y a plein de rapports inégalitaires, il y a plein de rapports de pouvoir dans notre société, la domination masculine, mais aussi... la domination blanche et les dominations de classe, etc. Et en fait, on ne va pas attendre la révolution pour pouvoir s'aimer à égalité. Donc, il va bien falloir qu'on invente quelque chose, qu'on fasse avec tout ça. Et la question que je me pose, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut s'aimer à égalité ? Comment est-ce qu'on crée des relations qui sont riches, profondes, qui sont équilibrées et qui ne sont pas oppressives, en fait, les uns et les unes avec les autres ? C'est ça qui m'intéresse. Et donc, pour ça, il faut réinventer des pratiques. Il faut réinventer, mais c'est très concret, les façons de se séduire, les façons de faire du sexe, les façons de s'aimer, de prendre soin de la relation, justement, nos façons de se parler. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est sur ça que je mène une enquête.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce podcast ? Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie qui t'a lancé ?
Bon, déjà, ça m'a toujours beaucoup intéressé les questions amoureuses, mais aussi parce que j'ai été socialisée comme une fille. Et on fait comme si l'amour, c'était qu'un sujet frivole, un sujet de magazine féminin, un sujet pour les filles. Or, ça me semble être vraiment au cœur de nos vies, donc un sujet très important. Et puis, donc, j'ai toujours continué à lire sur ça. et à me poser des questions sur ce qu'on m'avait appris sur l'amour. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on m'a appris que la plus belle chose que je pouvais attendre dans ma vie, c'était de rencontrer un prince charmant qui allait combler tous mes besoins et tous mes manques et qu'enfin, je serais entière, par exemple. Ça, je pense qu'on peut le remettre en question. Ensuite, en faisant le podcast Les couilles sur la table, en m'intéressant de plus en plus aux théories féministes, il y a toute la question de comment est-ce qu'on fait pour continuer à être hétérosexuel et féministe ? Comment est-ce qu'on fait pour... nouer des relations amoureuses alors même qu'on connaît toutes les inégalités qu'il y a dans le couple. Voilà, c'est ça qui m'intéresse et qui nourrit l'enquête.
Ce serait quoi, justement, la forme rêvée d'amour féministe et même queer ?
Je pense que c'est une forme de relation où les deux personnes comprennent que toute relation implique un travail, en fait, et implique une responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en relation avec quelqu'un, il faut en prendre soin. Et en prendre soin, ça veut dire considérer que cette relation est importante, partager le temps de discussion, partager le travail aussi. Parce que dans nos relations circulent aussi toutes sortes d'activités, le travail domestique, le fait de s'occuper des enfants, de prendre soin de la maison, etc. Et donc une relation équilibrée, c'est aussi une relation où tout ce travail-là, il est partagé, il est pris en compte, il est reconnu.
J'ai une formule, faut être deux pour faire un tennis. Ça te va ?
Ouais.
Ça marche ?
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais aussi, on peut être trois probablement ou quatre.
Après, il y a les ramasseurs de balles. Hein, c'est
sûr. En tout cas, c'est une relation où il n'y a pas de violence et, ouais. Et pas d'agressivité et où les deux personnes comprennent que la relation est importante et qu'il faut s'en occuper.
Victor, on parle de plus en plus d'un spectre complexe de l'amour avec les romantiques, les aromantiques, même des flux romantiques, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui peut nous aider à nous repérer dans tout ça ?
Alors, il y a plein de concepts sociologiques ou militants qui peuvent nous aider à penser nos relations amoureuses. Par exemple, quand je disais dans l'amitié, il y a beaucoup d'amour, se dire qu'entre l'amitié et l'amour, ce n'est pas deux sentiments opposés, ça peut vraiment être un continuum, comme un spectre. Et qu'on peut être plus ou moins attaché aux manifestations du romantisme. Donc quand, là, tu parlais des personnes qui sont aromantiques.
Tu peux redéfinir ce que c'est, peut-être, pour les gens qui ne savent pas, hein.
Les personnes qui sont aromantiques, ce sont des personnes qui peuvent avoir une attirance sexuelle pour quelqu'un d'autre, mais qui ne ressentent pas toutes les sensations et les émotions qu'on associe habituellement aux sentiments amoureux. Donc les papillons dans le ventre, les palpitations, l'avoir envie de passer tout ton temps avec cette personne et tout ça, qui essaie de se détacher en tout cas de ces modèles romantiques. Voilà. Et en fait, on doit vraiment avoir des conversations sur ce qu'on apprend sur l'amour, sur notre culture amoureuse, et tous ces mots vont nous y aider. Il y a un autre concept que je trouve très utile, par exemple, c'est l'idée d'escalator des relations, c'est-à-dire le fait qu'on pense que quand une relation amoureuse commence, elle a forcément un but, une destination, des étapes nécessaires, et que si on ne suit pas ces étapes-là, ce n'est pas vraiment de l'amour.
Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas obligé de se définir selon ces étapes, mais qu'on peut se définir par ces catégories.
En tout cas, il faut faire très attention à ce qu'on ressent et d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on croit telle ou telle chose sur l'amour ? Pourquoi est-ce qu'on croit que, par exemple, que la jalousie, c'est une preuve d'amour ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'être célibataire, c'est horrible, c'est vraiment la honte ? D'où ça nous vient, en fait, ces idées-là ? Ça vient de beaucoup de normes sociales, en fait, qui nous disent ce qui serait bon ou juste de faire.
Donc, pour aimer, il faut plus écouter son cerveau que son cœur, c'est ça ?
Je pense que c'est important de réfléchir ouais, à ça, mais aussi d'écouter son cœur, quand même.
On parle de nouvelles catégories, justement, dans notre société. Est-ce que, toi, c'est compliqué d'inclure ces catégories dans tes sondages ?
Les catégories, on voit notamment chez les jeunes que... Les catégories d'orientation sexuelle sont de plus en plus remises en cause. Ils refusent de se situer comme simplement hétéro, bi ou homo, par exemple. Sur l'identité de genre, trans, c'est un peu plus encore compliqué parce que c'est une notion que les spécialistes connaissent bien, mais qui est quand même moins grand public. Mais on voit bien qu'il y a une tendance quand même assez large à l'attirance pour une personne du même sexe qui est de plus en plus admise, notamment chez les jeunes filles. On a à peu près une jeune fille sur quatre qui admet avoir déjà été attirée sexuellement par une personne du même sexe, qui est quand même une rupture par rapport à ce qu'on observait il y a encore une dizaine, quinzaine d'années. C'est aussi lié à une plus grande admissibilité sociale, aussi culturelle, etc. Chez les garçons, ça apparaît aussi, mais bon... Sur la question de la monogamie, c'est un peu plus compliqué. Souvent, quand on est très jeune, on est très romantique, on a un coup de foudre tous les six mois où on tombe facilement amoureux et on est vraiment très exclusif avec vraiment une vision de l'amour qui va durer très longtemps. Avec le temps, ça l'est quand même un peu moins. Et finalement, c'est souvent les très jeunes qui sont vraiment très exclusifs, très monogames. Et avec le temps, on est quand même beaucoup plus souple sur le principe d'exclusivité sexuelle dans le couple.
Moi, je trouve, François, pour quelqu'un qui bosse à l'IFOP, tu dis vraiment pas beaucoup de chiffres. Est-ce que tu peux regarder la caméra et dire au moins un chiffre ? Juste un chiffre, hein, même pas lié à quelque chose. Ouais. Ton chiffre préféré?
Le chiffre des personnes non-binaires chez les jeunes, non? C'est 20% de la classe des 15-24 ans.
Alors, ça, c'est un chiffre qu'on a sorti récemment. C'est, on a à peu près un jeune sur quatre qui refuse les catégories hommes ou femmes pour définir leur genre. Ça ne signifie pas qu'ils sont forcément trans, binaires, non-binaires. Non.
Mais ils veulent pas.
Mais en tout cas, ils considèrent que c'est un rejet des normes culturelles qui font qu'on doit être forcément assigné à un rôle de genre féminin ou masculin.
Ah oui. Oh ah, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est le moment de jouer ensemble. Qui dit amour dit Cupidon, le dieu de l'amour. Mais on se pose jamais la question, qu'est-ce qu'il fait Cupidon quand il bande pas son arc, enfin quand il bosse pas le week-end? Bien, c'est justement le but de ce jeu. J'ai avec moi des vrais tableaux d'époque montrant Cupidon dans différentes situations. Je vais vous les montrer et vous devrez deviner le titre du tableau original. Et vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer grâce au jeu concours MyCanal.fr. Bon, bref. Donc, un point par réponse, pas ouf. 15 points pour la bonne réponse. Allez, j'y vais. Premier tableau. C'est des vrais tableaux, hein, attention.
Quand je regarde, il y aurait la réponse.
Ah, alors, ah, non, j'ai en train de tricher.
Alors, une propale. Vous pouvez donner des réponses pas ouf.
La salle peut jouer aussi, éventuellement.
La salle n'est pas équipée en micro. Je vous aide. Là, on aurait pu dire c'est Cupidon a cassé sa guitare. Mais c'est pas ça. C'est...
L'amour victorieux du Caravage, 1602.
D'accord. On a commencé hyper soft, c'était pour que vous compreniez.
D'accord, prenez le jeu.
Okay. On aurait pu dire Cupidon a cassé sa guitare.
Oui.
Okay. Ouais. Maintenant, c'est parti.
Oh là là.
Le commentaire de François. Oh là là là.
Ah ouais, ouais.
Mais il est en train de.
Là, il
t'a le type.
Pisser à ah travers ouais. Le.
Il y a un Oedipe là-dedans. Là.
Oui, il y a. Enfin,
c'est.
Je
sais pas. C'est trash, hein. J'avais ouais, jamais ouais, vu celui-là. Ouais. Ouais,
donc, on aurait
elle,
pu
elle
dire...
a une coquille au-dessus de la tête.
Elle a un
pourquoi
coquillage,
faire
ouais. Ouais, okay. Donc voilà, en gros, c'est Cupidon qui pisse sur la gueule de Vénus. Mais c'est pas vraiment le titre du tableau, je crois.
C'est quoi, c'est d'urologie,
non. C'est... Le titre du tableau, c'est Vénus et Cupidon, ce qui est mieux que Cupidon pisse sur Vénus.
Mais François avait un début de bonne réponse, c'est qu'en fait...
Tout à fait.
Vénus, c'est la maman de Cupidon.
C'est la maman de Cupidon.
Donc bon, il y a un délire, quoi. Je sais pas.
Pisse et qui sur... a fait la recherche des tableaux, déjà? C'est toi, en personne?
Bah, franchement, on a tapé Cupidon sur Google Images. On va aller très loin. Et on a trouvé tout de suite des choses très, très folles. Et on s'est dit, oh, on va en faire un jeu tel que ce tableau de Cupidon. Je vous laisse découvrir, oui, les
ah oui,
sourcils
d'accord.
De Victoire
ah
souffrance.
Ah ouais, là on est, ouais.
J'essaie de comprendre ce qui est en train de se passer et pourquoi, donc...
On est sur une soufflette.
Cupidon se fait, ouais.
Non, là c'est Cupidon, il est là.
Ah. Il a un soufflet, du coup, dans
et
la main.
Et il souffle...
Dans un autre Cupidon.
Dans un petit chérubin.
Dans
ouais.
Une personne, ouais. Ouais.
Qui n'a pas l'air très consentant, d'ailleurs.
Non, qui est chevauché par un troisième ange.
Ouais, bah, qui après, le tient bon, par les cheveux. Oh,
c'est quoi le titre de ça?
Marco Zoppo, donc le peintre. Trois angelots, un chien et quatre personnages derrière.
C'est le titre.
On a zéro point depuis tout à l'heure, on est vraiment...
Je vous vois plus sidéré par les arts. Je vous rappelle, c'est de l'art. Hein. C'est de l'art.
C'est après le boulot, là. C'est... Il a bossé.
Cupidon a pris trop d'extasie.
Ouais. Ah, un point vrai. Pour une réponse pas ouf. Okay. Et donc ça, c'est...
Amour endormi, du Caravage.
Caravage, qui s'est fait plaisir. Caravage, s'est fait plaisir. Et là, enfin, le dernier, là, on est sur du très moderne. Donc, c'est vrai, attention, hein, c'est pas un wow. Photomontage, c'est un
c'est
vrai.
C'est une publicité, ça, c'est pas...
C'est une photo, c'est du bling-bling. Il faut savoir autour de, du coup de quelle méga-star mondiale... Ouais, c'est
rappeur
fait
américain
ce, ouais, un Cupidon qui coûte beaucoup d'argent avec une cagoule. Propale de rappeur. Je vous le montre.
J'avais rappeur américain.
Mais c'est Drake. Drake s'est fait un Cupidon en bling-bling. Ouais.
D'accord.
Ah ouais, d'accord.
C'est beau, hein?
Et donc, c'est Victoire qui gagne ce super quiz.
Bravo!
Avec
bravo.
Un point.
Merci, merci.
On amène le cadeau de Victoire. Bravo! Oh là là!
Oh,
oh
là.
C'est... Allez, va-t'en, briseur de cœur, salaud. Ah. Bravo, Victoire. On parlait à l'instant de Cupidon. Lui aussi, il a le visage rond, les joues roses, les fesses bien potelées comme un chérubin. Et il descend de son petit nuage avec ses deux petites ailes atrophiées dégueulasses. Il vient nous décrypter l'amour sous l'angle de la pop culture. Voici Maxime Donzel avec sa rubrique Culture Beat.
Culture Beat. Oui, bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des bites partout dans la pop culture. Alors, pour cette spéciale Saint-Valentin, en fait, je me suis intéressé aux comédies romantiques au cinéma. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que mes maigres connaissances sur l'hétérosexualité, que personnellement, je ne pratique pas, hein, elles proviennent exclusivement de ce genre de films. Alors, pour mieux comprendre en fait, ce que ces films nous enseignent, j'ai collecté certaines données, des datas, j'ai regardé les films, et puis j'ai noté dès que quelqu'un baise ou comment, puis j'ai fait des comptes. Alors, je me suis basé sur les 10 comédies romantiques qui ont le plus amassé de recettes au box-office mondial. Donc là, on va retrouver en tête, évidemment, Pretty Woman, Coup de foudre à Notting Hill, Mariage à la grecque. Puis, Ce que veulent les femmes, alors, c'est un film dans lequel Mel Gibson peut entendre les pensées des femmes, mais le saviez-vous, il entend aussi ce que pensent les chiennes. Le pitch, c'est ça, hein, il entend les pensées des femmes et des chiens, mais juste les femelles. Je pense que ça vaut le coup de le rappeler, puis de rappeler que c'est dans le top 10 des plus grandes comédies romantiques. Alors, premier chiffre choc, d'après mes calculs, dans 73% des scènes de sexe, les femmes portent un soutien-gorge ou un pyjama. Alors, pour que vous vous rendiez bien compte, j'ai reporté cette proportion sur un camembert, c'est un Normandie premier cru.
Excuse-moi, Maxime, pourquoi sur des fromages ?
Bah, tu sais, tu m'avais dit que tu voulais sur des camemberts.
Non, mais je t'avais dit des camemberts en graphisme.
Ah ! En graphisme, des
ben ouais, enfin, je sais pas, enfin, sauf erreur de ma part, à l'IFOP, quand vous faites sur les calculs sur des camemberts, ouais,
des... C'est pas des vrais camemberts ?
Non, on appelle ça un camembert, mais...
Putain, j'ai pris que des fromages, du
bon,
coup.
Bon, c'est pas grave, Maxime, c'est bien. J'adore tes trous, continue.
C'est gentil, mais du coup, j'ai des doigts qui puent, mais bon. J'ai apporté du pain, comme ça, on gâchera pas. Donc, on peut voir que dans la majorité des scènes de sexe, les femmes baisent habillées, et alors, quand elles font l'amour nu, dans ces films, on voit quand même pas grand-chose, hein, mais tout de même, vous pouvez voir sur ce coulommier qu'on a 45% de boobs, 20% de pénis quand même, très beau d'ailleurs, très beau galbe, à la fois lourd et un peu léger, c'est vraiment minute 48 dans Sex and the City film, je recommande.
D'accord.
20% de fesses et 10% de... Ben voilà, ça coule, de sperme, voilà, c'est 10% de sperme, évidemment, j'aurais dû prendre un pâte.
Attends, dans les comédies...
Dans une comédie...
C'est des vrais laquelle... chiffres, hein.
Il y a du sperme dans Marie à tout prix, sur l'oreille de l'héroïne. Oui, René.
C'est des vrais chiffres, t'as beaucoup travaillé pour ça, on le précise, hein. Je tenais quand même à le rappeler à tout le monde.
Tu sais, compter des bites, pour moi, c'est pas du travail. Alors ensuite, j'ai regardé les lieux où les personnages font l'amour. Regardez sur cette meule de Gouda. Sur cette meule de Gouda, 70% quand même dans un lit. Ça faisait un peu plus, mais j'avais faim. Ensuite, on a dans le placard, dans la baignoire ou sur le piano. Puis regardez tout de même, 15% sur le canapé devant la télé. Ce qui veut dire que si ça reflète la réalité, en ce moment même, il y a des gens qui nous regardent et... Bonsoir. Ça se passe bien. Bon courage. Je trouve pas mon Saint-Félicien, mais c'est normal parce que zéro, c'est le nombre de scènes lesbiennes ou de personnages de lesbiennes ou de simples mentions de l'existence de la possibilité que peut-être quelque part quelqu'un puisse être lesbienne. Mais on trouve quand même une scène de partous gays en extérieur dans Marie à tout prix. Et franchement, honnêtement, assez réaliste, hein. Enfin, selon ce que j'ai pu entendre comme rumeur de comment ça se passe. Il y a aussi quelques bisous sur la bouche entre hommes. Regardez sur ce cabécou. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et en plus, 50% de ces bisous sont suivis par un mec qui fait et crache. Donc, pas très sympa. Puis, il y a autant de bisous entre hommes que de bisous entre un homme et un chien, décidément. Pour finir, j'ai regardé le top 100 des comédies romantiques les plus rentables. Et dans ce top, il y a un acteur qui revient dans 10% des films. C'est énorme. C'est deux fois plus que n'importe quelle autre actrice ou acteur. Alors, comme indice, je vous montre cette petite tranche de cheddar industriel sous plastique. Vous l'avez deviné, je parle de Hugh Grant, parce que comme elle, il est tout mou et il sent pas du tout la zigoune.
Merci beaucoup, Maxime. Et c'est incroyable, t'as fait toute une chronique sur les fromages sans faire de blagues sur le fromage de bite. C'est fou.
J'avais pas fini, mais je range ma faisselle, alors qu'est-ce que tu...
Merci, Maxime Donzel. Pour Maxime, faites du bruit. On parle d'amour et quoi de mieux que déclarer sa flamme en chanson. C'est le moment du live musical dans Cracra Club et... Oh, vous sentez, c'est... Oh, tapenade, cannelle, le Mont Ventoux. Ce serait pas la révélation pop de la décennie. Applaudissez bien fort, Suzanne.
À 3h du mat, je te vois sourire devant ton écran. Le film a l'air bien, mais je suis pas dedans. On s'endort ensemble dans un lit trop grand. En tête à tête, je tiens la chandelle. T'as passé la soirée à penser à elle. On se dira bonne nuit comme à la fin d'un mail. Je suis plus la première à qui tu penses au réveil. Je voudrais remettre le film au début. Jouer la scène où le lit nous voit nus. Regoûter ta bouche pour la première fois. Laisser du parfum dans tes draps. On vit sous le même toit, on s'est perdu de vue. Mon amour, est-ce que c'est le temps qui nous tue? T'as claqué la porte sans me dire au revoir. Depuis j'attends que tu rentres tous les soirs. Dans l'appart vide, je reconnais plus le décor. J'écris des chansons tristes, j'ai même plus d'or. Dans l'appart vide, y'a plus que du désordre. J'ai toujours pas dormi, il fait jour dehors. Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es? Un jour ces questions vont me tuer. Je me fais des films que je veux pas regarder. J'ai le cœur en sang quand je te vois l'embrasser. Je regarde nos photos de couple parfait. Je me sens moins belle quand t'es plus à côté. Je trouve même plus la force de danser quand j'entends notre chanson préférée. Je voudrais remettre le film au début, rejouer la scène où le lit nous voit nus, regoûter ta bouche pour la première fois, laisser du parfum dans tes draps. On vit sous le même toit, on s'est perdu de vue. Mon amour, est-ce que c'est le temps qui nous tue? T'as claqué la porte sans me dire au revoir. Depuis j'attends que tu rentres tous les soirs. Dans la porte vide, je reconnais plus le décor. J'écris des chansons tristes, j'ai même plus d'or. Dans la porte vide, y'a plus que du désordre. J'ai toujours pas dormi, il fait jour dehors. Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es? Un jour ces questions me tuaient. On dansait un slow mais tes bras m'ont lâché. Dis-toi aussi tu te sens qu'à moitié. Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es? Mais tes bras m'ont lâché. Y'a plus qu'une paire de clés dans l'entrée. De la porte vide, je reconnais plus le décor. J'écris des chansons tristes, j'ai même plus dehors. Dans la porte vide, y'a plus que du désordre. J'ai toujours pas dormi. Toujours pas dormi, il fait jour dehors.
Suzanne, bravo! Avec la réédition de son album Toy Toy. Suzanne, t'es le sang de la veine.
Merci frère.
Oh, merci Suzanne, bravo!
Dans Crac Crac Club, les témoignages sont mis en avant, la parole se libère et se confie au creux de vos lobes. On écoute maintenant une confidence de Lucie qui est venue avec son journal intime.
Bonjour. Donc il y a 2 ans, j'ai retrouvé ce vieux journal intime jaune. C'était le journal intime de mes 14 ans. Donc, du coup, dessus, il y a écrit... journal intime, laisse parler les gens. Donc il était là au milieu de mes vieux agendas scolaires, dans ma chambre d'ado, avec les murs restés intacts, et donc avec des posters assez problématiques, qui étaient donc Lolita et Autant n'emporte le vent. On peut dire que 15 ans plus tard, c'est pas forcément les posters à avoir dans sa chambre. Enfin bref, donc mes 14 ans, c'était en 2003, et en 2003, j'avais une grande passion, c'était Trio, mais j'avais une autre grande passion, c'était les garçons. Parce que cette année-là, j'ai perdu ma virginité, j'ai découvert mon premier grand amour, mon premier chagrin d'amour, mes premières déceptions, mes premières vraies mauvaises décisions. J'étais super heureuse, super triste, et puis en fait, c'est un peu comme si j'avais vécu toute une vie en une année. Et du coup, cette année-là, il y avait la Saint-Valentin, et moi, je sortais avec Camille, c'était un grand, beau gosse, blond. Bien sûr, il était en seconde, j'étais en troisième, je trouvais ça ouf. Mais dans ma classe, il y avait un mec qui s'appelle Ben. Lui, c'était un peu le bad boy de ma classe, j'étais un peu en kiff sur lui, et on avait déjà flirtouillé l'année d'avant. Je dis flirtouillé parce que c'est comme ça que je l'écris, à l'époque. Du coup, le 13 février, j'écris ceci. Attention, hier soir avec Ben, on s'est envoyé des textos et il a décidé de me faire des câlins parce que je lui avais fait des bisous. Le truc, c'est qu'il est timide et qu'il a peur que je prenne ça pour des avances. Au ciné today avec la classe, on s'est tenu la main, mais il n'y a rien d'amoureux là-dedans et j'ai peur des potins. Entre Ben et moi, ça n'a jamais vraiment commencé ni fini, mais je suis folle de Camille. Pour une Saint-Valentin, c'est sympatoche de ne pas savoir qui on aime. Et du coup, le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin, je tire un constat. J'écris ceci. Je pense tout le temps à Ben et ça m'inquiète. Je suis aussi folle de Camille. Je pense que je vais continuer avec lui, sûrement en flirtouillant avec Ben. Mais comme ça va pas super avec Camille, je sens que je vais bientôt tomber dans les bras de Ben. Et alors là, c'est la galère. J'analyse les deux mecs et je vois que Camille est doux de caractère, je veux dire avec tout le monde. Et puis je l'aime dans un tout, on se marre bien tous les deux. J'aime bien être dans ses bras nus. Putain, mais ça arrive qu'à moi de ne plus savoir où j'en suis entre deux mecs. Tout ça paraît frivole à lire, mais en fait, c'est une torture dans ma tête, car je suis loin de l'un et de l'autre. J'en pleure de désespoir. Bon, il faut aussi que je prenne en compte que je vois plus Ben que Camille et que c'est peut-être pour ça que je pense plus à lui. Puis après, du coup, j'écris. Plus, je fais pas assez de préliminaires avec Camille. Il faut que je m'améliore.
Merci beaucoup, Lucie. Et si on a envie de voir d'autres pages de ton journal intime, on peut écouter ton magnifique podcast qui s'appelle « Mes 14 ans », qui est dispo sur toutes les plateformes. Vous, Victoire, François, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à l'ado que vous étiez ?
Je sais pas, sur le... les années lycées, en fait, on a tendance un peu à croire qu'on est sur une génération YouPorn qui est très trash, qui commence tout plus vite que les autres. Alors, c'est à la fois vrai et faux, mais moi, ce que je vois surtout, c'est que s'il y a bien une génération pour laquelle l'amour compte beaucoup, plus que pour les autres, c'est les adolescents, c'est les lycéens, où là, vraiment, c'est quelque chose qui est très important tous les jours de la vie, quoi. Et on a une intensité des sentiments, une demande d'exclusivité qui est très forte et qu'on ne retrouve pas forcément après au fil de la vie. Donc c'est vraiment l'année de... Les années de lycée, c'est les années de l'amour pour moi.
Et tout ça ne dit pas du tout ce que tu aurais dit à l'ado que tu étais.
Ah, j'aurais peut-être dit, oui, bon, bah, tu n'as peut-être pas besoin de tout faire tout de suite. En fait, tu n'es pas le seul à pas avoir commencé à faire un premier baiser, un premier ceci avant tel âge, etc. Et les pressions qu'on se met pour être plus mature sexuellement.
De se détendre.
Et toi, Victoire ?
J'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt que quand t'es folle amoureuse de quelqu'un qui veut pas de toi, ça raconte beaucoup moins de trucs sur la personne dont t'es amoureuse que sur toi. Voilà, et que ça a pas grand-chose à voir avec l'amour, en fait.
C'est bien. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, ça aide à construire, finalement. Et toi, René ?
Construire. Moi, pouf, qu'est-ce que j'aurais aimé dire ? De pas être toujours amoureuse de la même personne pendant 7 ans, et de se remettre, et de ne plus être avec lui, et encore avec lui... Back and forth, comme on dirait en anglais, tu vois.
Je vois très bien.
Tu vois.
Moi, j'aurais dit au moins du collège, j'aurais dit, te mets pas la pression, tu rateras tout de toute façon. Essaye de kiffer un peu. De toute façon, ça sera un échec. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous sommes dans une magnifique salle de théâtre. Ah, la scène ! Ah, les feux de la rampe ! Ah, le micro pas branché ! Ah ! Comme vous le voyez, il n'y a pas de mauvais comédiens, juste des mauvais textes. Voici venue la séquence où nous invitons des comédiens d'exception à jouer devant vous des vrais textes issus de vrais films porno. Ah, le théâtre se retourne dans sa tombe actuellement. La première, vous la connaissez pour ses podcasts uniques et ses rôles électriques. Elle est considérée comme une arme puisqu'elle fait sonner les portiques, c'est Sophie-Marie Larouille. Le deuxième est humoriste, comédien. Son prénom est grec et dans son caleçon, il y a un supplément salade tomate-oignon. Applaudissez bien fort Panayotis Pasco et Sophie-Marie Larouille. Ok, ils sont très concentrés. Pour ce premier extrait, on va rendre hommage à notre manière, aux soignants qui se dévouent pour nous depuis un an. Et donc, vous allez jouer un extrait du film « Infirmière en chaleur » numéro 4 à la façon du théâtre classique de la comédie française. Vous êtes prêts ?
Oui.
Oh, j'ai jamais vu des gens aussi concentrés, c'est incroyable. À part peut-être un jus de tomate. C'est parti.
Docteur, est-ce bien vous le plus grand spécialiste mondial des maladies pandémiques et qui êtes le chef de service de l'hôpital d'infectiologie des maladies tropicales de Washington, D.C. ?
Oui, c'est bien moi, je suis d'ici. Et d'ailleurs, vous qui êtes-vous ?
Je suis l'infirmière au gros sein.
Ah, mais oui, on m'a beaucoup, parlé de vos énormes tchouches. D'ailleurs, laissez-moi les diagnostiquer.
Docteur, est-ce un diagnostic ou un diagnostic ?
Oh. Quand vous allez voir mon thermomètre monter dans le rouge, vous allez le comprendre, salope !
Un.
Ah, j'ai joui.
Eh bien, moi aussi.
Bravo. Bravo. Waouh, c'était hyper intense. On va passer un deuxième extrait. Ça va se corser. Vous allez maintenant jouer le texte du film. Ouais, je vois que vous prenez l'espace scénique et c'est bien. Vous allez en avoir besoin puisque le film que vous allez refaire est Mega Gang Bang Swimming Pool Gay Party. Alors, je vous propose au niveau des rôles, Sophie Marie, que tu joues Kevin, Fabrice, David, Bernard, Simon, Sam et Jean-Charles. Et Panayotis, tu vas jouer la piscine, mais aussi l'homme de piscine.
Très bien.
Et comme nous sommes à la frontière finalement du théâtre et de la performance, je vous propose de faire entrer de la danse contemporaine dans votre extrait. Ouais, c'est parti.
Salut, moi c'est Kevin, c'est ici le gangbang. Bonjour, moi c'est Stéphane, j'arrive de Metz et je viens pour la baise. Oui, moi je suis un ami de Kevin, là je viens pour juste voir si l'eau est bien chaude. Ah oui, c'est bon, elle est chaude, comme dans mon caleçon. Bon, bonjour, moi c'est Patrick et je viens là pour baiser des culs. Je suis là pour le méga gangbang. Oui, je vous le dis, j'adore baiser. Donc moi, tout ce qui est gangbang, c'est pour moi.
Excusez-moi.
Oui, hein,
Je suis l'homme de piscine. Et je viens réparer la piscine. Avec ma grosse pompe. Excusez-moi. Qui donc a pissé dans la piscine? On avait dit qu'on gardait tout pour
Kevin.
Bravo! Incroyable! Bravo! 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 Merci à Sophie Marie Larouille et Panayotis Pasco qui viennent de briser leur carrière devant nous. Bravo! C'était Crac Crac Club. C'est comme le véritable amour, c'est fini. Je voulais vous dire, j'ai passé la meilleure des Saint-Valentin avec vous. Je trouve que ça s'est très bien passé. Il y a un vrai truc entre nous, il y a un vrai feeling. Je pense que ça peut aller plus loin.
Et merci à François Cros, à Victor Tuaillon, à Maxime Donzel, à Suzanne, et aussi à Redouane Bouguerraba, Sophie-Marie Larouille et Panayotis Pasco. Et n'hésitez pas à checker leur actu sur Insta.
Merci à toutes les personnes qui ont témoigné pendant l'émission, à toutes les équipes de Canal+, et un big up à notre team de Ninja Associés. C'est Crac Crac Club, merci à toutes.
Et à tous, bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.